Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Piero et la Meji Chimbila.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Poursuite de consultations initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi à ses troisième jours. Outre les personnalités politiques et religieuses, le président de la République s'est entretenu avec les différentes délégations des universités, des mouvements citoyens, des associations féminines, du secteur privé, ainsi que des personnes vivant avec handicap. Face à la mauvaise gestion de la redevance minière que les entreprises minières mettent à la disposition des entités impactées directement par l'exploitation minière, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga invite les gestionnaires de ces fonds ce jeudi pour des explications. L'invité de votre journal, c'est l'administrateur du territoire des Nyunzu qui a achevé lundi dernier une mission d'itinérance dans les secteurs sud du territoire à 200 km à l'ouest des Kalemi, dans le Tanganyika. Hubert Kanzanvumba nous parle de sa mission avant la fin de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Troisième jour, ce mercredi 4 novembre, des consultations au Palais de la Nation. Le chef de l'État semble élargir ses horizons, outre les personnalités politiques et religieuses. Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu, d'après son agenda, avec les différentes délégations des universités, des mouvements citoyens, des associations féminines, du secteur privé, ainsi que des personnes vivant avec handicap. Question de ratisser large au niveau de toutes les sensibilités du pays. Jacques Molima pour les détails.
Deux personnalités majeures ont été reçues en premier par le chef de l'État. D'abord, Jean-Pierre Bemba, leader du mouvement de libération du Congo. Ce dernier, sans faire de commentaires à la presse, a tout de même souligné son soutien à toute initiative de dialogue entre les Congolais. Ensuite, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu. Pour lui, en répondant à l'appel du chef de l'État, c'est dans le souci de contribuer à la paix. Il faut que la paix revienne et règne, en RDC a-t-il conclu. Le chef de l'État s'est également entretenu avec les représentants des universités et des instituts supérieurs ainsi que ceux des étudiants, entre autres UNIKIN, UPEN, ULK, UPC, UCC, USTA, ISC et IFASIC. Les mouvements citoyens, notamment Filimbi, Lucha, CLC et Congolais Debout, ont aussi été au rendez-vous. On a noté également l'entretien avec les associations féminines, CAFCO et regroupement de femmes leaders, par exemple, et aussi la délégation des personnes vivant avec handicap. Le chef de l'État a consulté toujours ce mercredi les délégués du secteur privé, notamment FEC et associations des banques. Enfin, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en consultation les responsables des artistes à l'instar de Prof. Yoka. Pour ces derniers, la culture africaine a toujours préconisé les palabres pour résoudre les différends entre les peuples et le moment est propice. Enfin, le chef de l'État a aussi écouté les artistes et comédiens, entre autres Bodo Masumu, Fiston Saïsaï et Ladine Zongo Makese, dit Esobi. Depuis le Palais de la Nation, Jacques-Yves Molima, Aouta. Radio Kapi.
Merci beaucoup, Jacques-Yves, notre permanent au Palais de la Nation. Autre chose dans ce journal, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a réhabilité hier mardi 3 novembre les gouverneurs de la province du Congo, Jean-Marie Petit-Petit et Duma Ndombé, Paul Mputubo Leilanga. Dans une correspondance leur adressée, il leur a demandé de reprendre leurs fonctions car, selon lui, le président de la République n'a pas pris en compte leur démission. Pour le président de l'Assemblée provinciale du Congo, le vice premier ministre n'a pas qualité de réhabiliter ses gouverneurs qui avaient démissionné volontairement. Et selon lui, cette décision n'est pas soutenue par un des textes légaux. Irène Boma pour les détails.
Depuis l'après-midi du mardi 3 novembre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a réhabilité les deux gouverneurs démissionnaires respectivement de la province d'Ima Ndombe et celle du Kwango. Dans une correspondance adressée aux concernés, Gilbert Kankonde justifie cette réhabilitation par le fait que le président de la République n'a jamais pris acte de leur démission. Tout en invitant Jean-Marie Petit-Petit et Paul Mputubo Leilanga de reprendre sans délai leurs fonctions, Gilbert Kankonde met ainsi un terme à l'expédition des affaires courantes par les vice-gouverneurs. Cette décision suscite déjà des réactions de la part des uns et des autres. Par exemple, du côté du Kwango, le président de l'Assemblée provinciale Mulenga Umpala Wenceslas réagit comme suit.
À mon entendement, le vice-premier ministre n'a pas le pouvoir là de réhabiliter. Si ça pouvait venir par le président lui-même, c'est autre chose. Le message est venu, il n'y a pas de texte légaux qui alimente ce message. La loi électorale nous fait voir les dispositions finales par rapport rapport à une décision. Le gouverneur a démissionné de lui-même. Je ne vois pourquoi on doit insister qu'il puisse rentrer.
Notez que Jean-Marie Petit-Petit et Paul Mputu-Boleilanga avaient démissionné au mois de juin dernier alors qu'ils étaient visés par une motion de défiance. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Rendons-nous au Sud Kivu où l'Assemblée provinciale vote pour l'interpellation du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. L'interpellation de ce membre du gouvernement provincial porte sur l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe ainsi que la recrudescence de l'insécurité dans la province. La plénière de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu d'hier mardi a rejeté l'interpellation du gouverneur de province pour cette même cause. Certains habitants de Bukavu se disent contrariés par ce vote et accusent l'Assemblée provinciale de jouer au mauvais jeu. Michel Chirimouami pour les détails.
L'Assemblée provinciale avait à son ordre du jour quatre sujets, dont les deux derniers portant sur deux motions d'interpellation, dont l'une contre le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, et l'autre sur celle du gouverneur de province. Le député auteur de la motion a été invité à lire les contenus de sa motion débattue avant de passer au vote. La motion contre le ministre a été élue et le président de l'Assemblée a en passant demandé si cela ne suffisait pas de laisser seul le ministre passer à l'interpellation au lieu de faire passer deux membres du gouvernement provincial répondre à deux interpellations sur le même sujet. La question d'installation de Gadi Mukiza comme bourgmestre de Minembwe. L'auteur de la deuxième motion aura l'occasion d'exposer sur sa motion, mais le résultat était le rejet de la motion d'interpellation du gouverneur par bon nombre de 28 membres de l'Assemblée présents à la session. Après la motion, la réaction de certains habitants était vive.
Nous avons vu que la démocratie, mais le gouverneur devrait être interpellé parce que plusieurs griefs sont contre lui. Il est reproché de n'avoir pas éradiqué l'insécurité en province du Sud Kivu et c'est vrai. Pour ceux qui ont volé les parcelles de l'État, le gouverneur est le responsable numéro un de la gestion de la province du Sud Kivu.
Bukavu, Michel Chirimami, Radio Okapi.
19h07 dans le Haut-Katanga où nous poursuivons ce journal avec la gestion de la redevance minière que les entreprises minières mettent à la disposition des entités impactées directement par l'exploitation minière qui laisse à désirer. C'est la conclusion de la commission économique et financière de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui a mené des enquêtes dans ces différentes entités. Les gestionnaires de ces fonds sont attendus ce jeudi à l'organe délibérant. Jean Andou.
Ces résultats de l'enquête couvrent la période de juin à décembre 2019 et c'est ce mardi seulement que le rapport d'enquête a été présenté à la plénière de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. De celui-ci, il ressort que ces entités reçoivent beaucoup d'argent des entreprises minières qui sont implantées dans leur milieu. En revanche, certains fonds sont mal gérés. Certaines factures de dépenses engagées pour la réalisation de certains projets sont gonflées. Dans certains cas, il n'y a pas de traçabilité pour les dépenses effectuées. Pour la ville de Lubumbashi, ce sont les communes de Ruachi, Kampemba et Annexe. Pour la ville de Likasi, il s'agit des communes de Chitourou et Panda. Pour le territoire de Kambov, il y a les secteurs de Lufira et Basanga, tandis que pour le territoire de Kipushi, c'est le secteur de Bukanda. Parmi les recommandations faites par cette commission pour éviter la gestion opaque de ces fonds, il y a notamment le respect de la procédure de passation du marché et l'instauration d'un organe de contrôle des dépenses effectuées. Notons aussi que depuis le passage de cette commission d'enquête dans ces entités, plusieurs projets d'intérêt communautaire ont déjà été réalisés, allant de la réhabilitation des routes, passant par les forages des puits d'eau et la construction des édifices devant abriter les services publics. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les bancs syndicales de la Société commerciale des ports et transports SCPT dénoncent l'exclusion de cette entreprise de l'État de la gestion du port en eau profonde de Banana. Dans une déclaration ce mercredi devant la presse, le président de l'intersyndicale de la SCPT a indiqué que cette décision, si elle n'est pas revue, aura comme conséquence la fermeture et la disparition pure et simple de cette entreprise. Armand Ossassé exhorte le chef de l'État à intégrer dans ses consultations les délais les syndicaux des entreprises de l'État en difficulté de fonctionnement pour qu'ils s'imprègnent de ces difficultés en vue du relèvement de ces entreprises. Les propos d'Armand Ossassé ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Tout ça s'est fait à décès. D'ailleurs, la gestion du port en eau profonde, la Banana, c'est notre concession. C'est impossible de nous écarter de cette gestion. Et la SCTP, jusqu'à présent, nous avons la jouissance de l'ordonnance de 1971 qui donne le monopole de la gestion de tous les ports à la SCTP. Nous écarter, c'est comme qui dirait cracher sur votre propre fils. L'entreprise va disparaître parce qu'aujourd'hui nous sommes à face des neuf ports et que demain on nous écarte dans la gestion des ports en eau profonde. Finalement, la STP est fermée. Donc, conséquence, plus de 25 000 actifs comme retraités seront dans la rue et dans le chômage. Donc, nous sollicitons juste être réussi par le chef de l'État et aussi nous réintégrer dans la gestion du port en eau profonde. Je suis sûr et je pense que le président de la République va nous répondre favorablement. Faire le contraire, c'est trahir la nation.
Nous poursuivons ce journal au Nord Kivu où une cinquantaine de délégués des coopératives d'épargne et de crédit venus de Beni, Butembo et Goma sont en atelier de 4 jours depuis ce mardi à Goma. Organisée par la Banque Centrale du Congo, cette rencontre a pour objectif de valider l'avant-projet de révision de la loi portant dispositions applicables aux coopératives d'épargne pour la Banque Centrale. Cet exercice rentre dans ses prérogatives d'accompagner les coopératives d'épargne qui ont des difficultés à se redresser. Les enjeux de cette rencontre avec vous, Sifa Maguru.
Ces réflexions visent à innover la nouvelle loi sur les faiblesses dans le fonctionnement des coopératives, en particulier sur les défaillances liées à leur mode de gouvernance, la nécessité de protéger les épargnants et les emprunteurs. C'est ce qu'explique Alphonse Malem, directeur provincial adjoint de la Banque centrale.
La loi en soi, on vous a dit qu'elle date de 18 ans. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu trop de désordre dans ce domaine. Donc la population doit se rassurer que la Banque centrale, qui a ce devoir-là d'encadrer les opérateurs financiers, prend la chose en charge pour que dans l'avenir, il n'y ait pas ce qu'on a décrit aujourd'hui.
Ce projet qui fait l'objet des débats est l'œuvre du groupe de travail dénommé G40. Cette structure regroupe plusieurs organismes et institutions, à savoir le Sénat, l'Assemblée nationale ainsi que différents ministères, dont ceux de la justice et des finances. Rappelons que lors de la journée internationale de l'épargne le 31 octobre dernier, la principale recommandation était d'appeler les institutions de microfinance à être transparentes et d'assurer la confiance aux épargnants. Le Nord Kivu a été particulièrement affecté par cette problématique. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Une aide d'urgence dépêchée par le gouvernement va être convoyée aux ressortissants de la RDC vivant au Congo-Brazzaville par le ministre des Affaires humanitaires. Les sites de Bouimba, Mbuya et Makoti Mpoko qui les hébergent ont été ravagés par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur place le week-end dernier. Selon le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, les besoins sont immenses puisque plus de 2800 personnes dorment à la Belle Étoile, leurs tentes ayant été emportées. Cette situation a poussé le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba à réunir autour de lui le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires humanitaires et l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville en vue de trouver des solutions d'urgence en faveur de ces sinistrés. On écoute le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, dans cet extrait choisi par Pelé Kipelamondo.
Cette situation appelle une action urgente de la part de notre gouvernement, étant donné que la République sert d'en face, traverse aussi des moments difficiles qui ne lui permettent pas d'apporter la première aide d'urgence. Le Premier ministre nous a réunis. Nous avons trouvé des solutions d'urgence. Le ministre de l'Action humanitaire nous présentera un plan d'action qui pourrait déjà être opérationnel dans l'immédiat. Nous allons leur fournir ce qu'il y a de nécessaire, de basique, la nourriture, les médicaments, parce qu'il y a plus ou moins une centaine de personnes qui sont blessées, dont 18 grièvement, donc la prise en charge de ces personnes. Et nous allons leur trouver aussi des abris, des tentes, dans un premier temps, avec des couvertures pour qu'ils se protègent contre le froid, d'autant plus que ces sites se situent le long du fleuve.
Pas de rentrée scolaire pour les écoles conventionnées catholiques de Mikondo. Mikondo, c'est une localité du quartier Kingasani 3, commune de Kimbanseke, ici à Kinshasa. Selon les parents d'élèves qui dénoncent l'attitude des frères joséphistes et des enseignants en grève du primaire au secondaire, les cours ne se donnent pas alors que des frais ont déjà été payés pour les classes du secondaire. Un des parents qui a requis l'anonymat dénonce au micro de Jeff Ngoy.
C'est le boycott total des enseignements et des instructions officielles à l'Institut et à l'école primaire Mwanza, à Mikondo. Ce sont des écoles conventionnées catholiques. Donc, c'est là depuis le 12 octobre jusqu'à ce jour. Alors que dans d'autres écoles conventionnées catholiques de Tchang, telles qu'Institut Malako et Petra Kingasani, les cours se déroulent normalement. Mais à l'Institut Mwanza, nous, les parents, ne comprenons pas. Au secondaire, nous avons payé, par exemple, pour la 7e année, 57 500 francs congolais. Ce n'est pas normal. Presque tous les parents ont payé ces frais-là pour la 7e année. Toucher les salaires de l'État et percevoir les frais scolaires sans enseigner aux enfants, ce n'est pas sérieux de la part de Frère Joséphine de Kimbambi, qui dirige l'école primaire et l'institut Mwanza. Nous condamnons le sabotage de l'année scolaire 2020-2021 par les Frères Joséphine de Kimbambi et certaines congrégations religieuses. Elles n'ont qu'à privatiser leurs écoles et y toucher les salaires de l'État.
Ajoutons que dans plusieurs écoles du réseau catholique de Kinshasa, notamment les lycées Bosangani et Bolingani, les cours ne se donnent pas non plus. Les élèves s'y rendent mais n'étudient pas. À Boboto et Kabambare, cependant, on apprend que les enseignants ont repris grâce à un arrangement que les responsables de ces établissements ont pu trouver avec les parents d'élèves. En clair, les parents auraient payé la somme exigée, mais aucune preuve de paiement n'a été donnée en retour.
Actualité internationale.
Après la clôture des votes le mardi 3 novembre aux États-Unis et le dépouillement qui n'est pas encore terminé, le suspense est à son comble. Joe Biden est actuellement crédité de 238 grands électeurs contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump, alors qu'il en faut au moins 270 pour être élu président. Mais il reste une petite dizaine d'États dont on ne connaît pas encore les résultats, dont plusieurs swing states, ces États pivots qui peuvent faire basculer l'élection présidentielle américaine. La Pennsylvanie, la Caroline du Nord, le Michigan et le Wisconsin. Dans l'attente des résultats, chacun de deux candidats a pris la parole avant que l'on connaisse le résultat final.
L'invité.
L'administrateur de territoire des Nyonzou vient le lundi dernier de clôturer une mission d'itinérance dans le secteur sud du territoire. C'est à 200 km à l'ouest de Kalemi, dans la province du Tanganyika. L'objectif était de rétablir l'autorité de l'État dans une région qui n'a plus connu depuis plus de 30 ans des visites d'une autorité territoriale. L'administrateur du territoire Hubert Kanzavumba s'entretient avec François-Xavier Mibé.
Monsieur l'ambassadeur Hubert Kanzavumba, bonjour. Vous venez de rentrer d'une mission qui vous a conduit dans la partie sud du territoire de Nyonzou. Mais dans quel cadre avez-vous circonscrit cette mission dans cette partie? Voici déjà plusieurs années, monsieur l'ambassadeur.
Vraiment, il y a des objectifs. Il fallait restaurer l'autorité de l'État. Nous avons été avec la population. C'est un coin du territoire où plus de 30 ans, aucun appel n'est passé par là. C'est tout le conseil de sécurité qui m'a accompagné, nous avons pacifié, nous avons laissé un message très fort de paix. Donc on a été à Tanounou, nous sommes passés par Cuba, nous sommes allés à Kinia et enfin de retour.
Monsieur l'ambassadeur, c'est quoi la vie de cette population qui est restée abandonnée pendant 30 ans, vous le dites, sans la présence de l'autorité?
Justement, vous savez, les routes... C'est vraiment impraticable, même la moto ne peut pas rouler, il faut les pieds, il faut un vélo. Tout ça, ce sont des priorités que nous sommes en train de changer avec la hiérarchie, si on peut vraiment songer à cette population du coin Kanounou. Donc quand vous allez vers Kondolo, c'est la manche gauche, donc dans les deux groupements, Baseba et Kanounou, c'est là que nous étions.
C'est-à-dire, monsieur l'ambassadeur, il doit s'être posé un problème, lequel?
On doit vraiment restaurer l'autorité de l'État. Ils ont grandement besoin de la présence de l'État. Ils sont abandonnés, ils ne sont pas gérés. Dans l'État, nous avions des chefs de poste d'encadrement. Actuellement, nous sommes en train de placer les fonctionnaires, les agents de l'État, que nous appelons État civil, en train d'enregistrer les naissances, ainsi de suite. Ce sont eux-là qui nous aident, afin de nous transmettre les rapports. Il faut de temps en temps qu'il y ait des débouchés, qu'on ouvre les routes. Il fallait vraiment supplier la population pour qu'il y ait des cantonnages manuels. Heureusement qu'il n'y a pas tellement de ponceaux, de pots. Ce sont des routes très bâties, juste comme l'État belge avait laissé. Il n'y a pas un véhicule qui a pu avoir l'accessibilité là-bas, pour ne pas parler des humanitaires qui n'y passent pas.
Ah oui, c'est vrai, puisque vous en parlez, monsieur l'ambassadeur. Les routes cassées, c'est au moins ce que gagne le territoire de Nyonzou ou que vous dirigez. L'accès à des zones est rendu difficile. Et maintenant, c'est quoi la solution finalement?
Il nous faut des visites régulières, même des petits problèmes qui peuvent se passer dans le cadre des conflits coutumiers. Il faut prodiguer des conseils, il faut restaurer vraiment la paix. Donc vous sentez qu'on a besoin de se développer et non vivre l'archaïsme, non. Ils ont du poisson là-bas. Bon, la grande souffrance, c'est peut-être les maladies liées à l'eau qui n'est pas traitée, l'eau non potable. Sinon, du reste, en tout cas, la population mange bien, consomme les naturels. Vous trouvez trouver les enfants en très bonne santé. Il n'y a pas de marasme ou bien de malnutrie, non. Ça n'existe pas là-bas. Ils se sont pris en charge. Jamais il y a eu de boxe là-bas avec les conflits intercommunautaires. Vous trouvez, et les Toa et les Bantous, ils vivent ensemble.
C'est comprendre autrement, monsieur l'ambassadeur, qu'avec cet isolement, la population n'a pas su évacuer ses produits des champs.
Oui, c'est ça qui est compliqué. Très compliqué, mais là-bas, c'est par pirogue qu'ils vont jusqu'à Kongolo. Il y a des grandes pirogues qui amènent le maïs jusqu'à Kongolo. Là, ils ont un peu de sous. Et les poissons, ils peuvent amener jusqu'à Luzi, toujours le long de la rivière Lukuga. Et puis, ils prennent la rivière Luzi elle-même jusqu'à Ngar. Et là, ils savent trouver leurs poissons, un peu du sel, et ainsi de suite. Ils s'approvisionnent plus à Kabalo et à Kongolo qu'ici à Nyuzu.
Qu'est-ce que vous attendez des autorités provinciales?
Justement, nous sommes en train de confectionner un document. Donc, on fait du plaidoyer pour qu'on puisse ouvrir plus les routes. Les routes, ça, c'est vraiment une priorité.
Monsieur l'ambassadeur, Hubert Kanzabumba, okay. Merci.
Okay. Merci beaucoup.
Merci à Willem Lungamba, Noëlla Luzitu, Axel Goncho qui ont concouru à la production de ce journal que vous pouvez retrouver sur www.radiookapi.net. Merci de votre fidélité.